Chapitre 3. Mathilda est encore une fois rendue à Patty. On voit se manifester douloureusement les implacables nécessités d'une hospitalité nocturne. Une autre aventure qui ramène un ami depuis longtemps absent. Mistress O'Donoghue, n'étant guère plus familiarisée elle-même que sa fille avec les quartiers de Londres, ne pouvait employer que deux moyens pour atteindre Bellevue Terrace, Brompton. Se fier à la science d'un cocher de fiacre ou à celle de M. O'Donoghue. Le gentleman préféra ce dernier comme étant le plus économique. Mais avant de partir, il eut soin d'établir que ces dames étudieraient bien le chemin, attendu qu'elles auraient à revenir seules, ayant pour son propre compte une affaire qui l'empêchait absolument de les accompagner dans leur visite. Ceci ayant été bien convenu, la conversation, tout le long du trajet, ne roula guère que là-dessus. « Remarquez bien que vous tournez à droite quand vous êtes au bout de Regent Street. Maintenant, attention, vous autres, voici Piccadilly, etc. » Enfin, on atteignit la rue et le numéro inscrit sur le calepin de Patty, et quand ces dames demandèrent avec anxiété « Les demoiselles Perkins ?», on leur répondit que ces demoiselles étaient chez elles. Il faut excuser la fille de service affairée de cette maison qui avait bien autre chose à faire que de servir de gentilhomme introducteur aux demoiselles Perkins, si, trouvant une difficulté insurmontable à prononcer le nom qu'on lui disait, elle annonça « Madame et Mademoiselle O'Donoghue ». Les deux sœurs, qui étaient installées fort confortablement dans leur petit salon, chacune à sa fenêtre, avec une petite table ronde chargée de quelque ouvrage à l'aiguille important, levèrent toutes deux la tête, en s'écriant avec la même grimace « Qui, cela ?» Mais avant que le nom eût pu être répété une seconde fois, la splendide vision de leur ami de Brighton, entrant dans la chambre avec sa majesté accoutumée, et suivie de sa fille resplendissante de fraîcheur, venait frapper leurs yeux. Au même instant, comme mues par le même ressort, les deux sœurs se levaient, joignaient les mains et s'écriaient « Oh, bonté du ciel !» Comme on peut se le figurer, Miss Mathilda et Patty furent bientôt enlacées dans les bras l'une de l'autre, et il ne faudrait pas croire que Mistress O'Donoghue eût négligé en cette occasion de déployer les tendances caressantes de sa nature. Elle enveloppa immédiatement de ses bras la forme efflanquée de Louisa, avec une énergie telle que la pauvre fille en perdit un instant la respiration. Quelles furent nombreuses les exclamations ravies et passionnées que suivirent ces démonstrations affectueuses. C'était à l'envi que ces quatre dames renchérissaient sur la vigueur des épithètes dont elles qualifiaient l'extase ou les plongeaient leur réunion. Mais bientôt Patty, se rappelant les mille et mille choses qu'elle avait à dire à l'oreille seule de Mathilda, manœuvra si bien qu'elle réussit à entraîner sa confidente dans le coin le plus retiré de la petite pièce et put lui dire à voix basse « Ne pourriez-vous m'emmener un petit moment dans votre chambre, Mathilda ?»« Si, vraiment, ma chérie, » répondit la fidèle amie. « Elle est là, la porte à côté. » Et, se tenant par le bras, elle se préparait à quitter le petit salon lorsque Patty, se souvenant de l'importance qu'il y avait à faire connaître à Mathilda la fable inventée tout exprès pour sa sœur et pour elle, et dont elle, Patty, ne se rappelait plus la moitié, s'arrêta brusquement en disant « Je vais avec Mathilda dans sa chambre pour une demi-minute, maman. Mais, avant de nous en aller, vous seriez bien bonne de raconter à ces demoiselles où nous sommes en ce moment et quelle belle maison nous allons avoir. Parce que, vous savez, quand nous sommes ensemble, Mathilda et moi, nous ne parlons que de nos petites affaires. » Mistress O'Donoghue était douée d'un esprit prompt. Elle saisit tout de suite ce qui se passait dans la tête de sa fille, et très flattée de l'occasion qui lui procurait le bonheur de se livrer à ses narrations imaginaires, elle répondit ce qui suit. « Le fait est, mes chères filles, qu'il nous faudrait, aussi bien que des gens de quelque importance, pouvoir être à la fois dans deux endroits. Ce qui fait que nous pourrions presque dire que nous ne sommes positivement nulle part. Une famille de haute volée, des parents éloignés des Hubert, les miens aussi par conséquent, nous ont invité, mon mari, ma fille et moi, à venir faire un séjour dans leur magnifique propriété située près de Richmond. Malheureusement, nous avons fort à faire à Londres, nous étant déterminés à y prendre une maison qu'il s'agit de meubler de la cave au grenier. « Monsieur O'Donaghue est certainement un homme d'un goût parfait, mais, vous savez, il se laisse facilement entraîner à des dépenses extravagantes. Il m'a donc semblé de mon devoir de déclarer que j'achèterai tous les objets de luxe, tels que miroirs, candélabres, etc., avec lui, ce qui me force nécessairement à venir au moins une ou deux fois par semaine à la ville. Alors, le pauvre garçon, il est si bon, si tendre. Quand il a vu cela, il a loué un tout petit pied-à-terre à Londres, afin que, si je suis par trop fatigué pour retourner auprès de notre joyeuse société de Richmond, après avoir passé ma journée à courir les magasins, je puisse coucher dans ce petit trou, ainsi que Patty. » « Oh Dieu, que c'est joli !» s'écria Louisa avec ferveur. « Quel mari !» ajouta Mathilda en soupirant. « Je vous assure, mes chers, que l'espoir de vous voir de temps en temps, grâce à ce moyen, a été pour beaucoup dans mon adhésion à cet arrangement. Nous ne saurons jamais assez vous remercier de toutes vos bontés, » dit Miss Mathilda en pressant la main de son amie, tandis qu'elle cédait au coup de coude qui signifiait « Actuellement, nous pouvons nous en aller. » « Que je suis heureuse de vous avoir encore une fois tout à moi, ma chère, chère Patty !» s'écria Mathilda, entourant de nouveau son amie de ses bras, aussitôt qu'elle eut réussi à l'attirer dans le petit carré resté libre devant la fenêtre, manœuvre que le peu d'espace laissé par le lit rendait assez difficile. « Oh, comme le cœur me bat quand je pense aux questions que je veux vous faire !» Dites-moi, chère fille adorée, avez-vous beaucoup revu Foxcroft après notre départ ? Mais oui, Mathilda, il n'a pas passé un jour sans venir nous voir. Papa et lui sont plus intimes que jamais. Vous pouvez être bien certaine de le voir chez nous, allez, quand nous aurons un chez nous en ville, bien entendu. Quelle ravissante pensée ! Vrai, j'en perds la respiration. Mais dites-moi, chérie, par pitié, a-t-il quelquefois parlé de moi ? Oh, il nous a fait un tas de questions auxquelles nous ne pouvions guère répondre, sur votre famille, sur votre fortune. Il nous a demandé si vous aviez une mère, un père, des oncles, des tantes, des frères, et Dieu sait quoi encore. Cela avait certainement l'air assez singulier. Mais Mathilda, ce grand lit serait-il donc pour vous seule ? C'est que s'il en était ainsi, vous pourriez peut-être m'en donner la moitié un de ces jours quand papa et maman seront retournés à... Comment ça s'appelle-t-il donc ? Je le voudrais de tout mon cœur, ma chérie, mais malheureusement, c'est ici notre unique chambre à coucher. Nous ne nous sommes préoccupés que d'avoir un salon. Oh, alors il n'y aura pas moyen, observa Patty désappointée et assez triste. J'ai pourtant des masses de choses à vous dire, et il faudra que d'une manière ou d'autre, nous nous arrangions pour nous réunir. Oh, Mathilda, si vous saviez quel homme nous avons dans notre maison! Je veux dire, dans la maison où papa nous a loué ce petit pied-à-terre. Un homme, Mathilda! Comme je n'en ai pas encore vu un depuis que je suis au monde. Non pas qu'il soit le quart aussi beau que mon Jack, car d'abord, il est jaune comme une guinée, et il a la figure presque entièrement couverte d'une barbe aussi noire que le charbon. Mais il a un nez et une paire d'yeux. Si je ne puis parvenir à vous le faire voir, vrai, j'en mourrai. Hélas, Patty, ma chérie, il n'est plus pour moi qu'un homme au monde. Parlez-moi du pauvre Foxcroft si vous avez quelque amitié pour moi. Dites-moi, quel air a-t-il ? Quel air il a ? Mais son air habituel, je suppose. « Tenez, Mathilda, il ne faut pas vous fâcher, mais vrai, je ne puis comprendre comment vous avez pu vous amouracher d'un nez rouge comme le sien, sans compter pas mal de cheveux gris. » Miss Mathilda Perkins rougit violemment, et l'on put craindre un instant que le cœur offensé de cette demoiselle ne l'entraînât à prononcer quelques-unes de ces paroles qui peuvent détruire à jamais l'amitié entre deux femmes. Mais des pensées meilleures, plus sages, plus calmes, succédèrent à cette velléité, et avant que Patty eût pu se rendre compte du mouvement de colère de son amie, cette tendre créature avait su maîtriser son émotion de façon à la réduire à un léger frisson. « Ce qui fait la nourriture de l'un, souvent empoisonnerait l'autre, dit-elle. Ce serait une chose terrible, Patty, si tout le monde avait les mêmes goûts. Ainsi, par exemple, que serais-je devenue, grand Dieu ? si tous les hommes voyaient avec les mêmes yeux que le jeune Compton Hubert. À l'ouïe de ces derniers mots, Patty jeta un regard de côté vers un miroir placé sur une table ronde devant la fenêtre. « Oh, vous, belle et méchante petite créature !» s'écria Miss Mathilda en posant, tout en se jouant, son doigt indicateur sur les joues roses de Patty. « Vous savez bien que pour la beauté, sur 10 000, il n'y en a pas une qui puisse vous être comparée. Une fille comme vous peut choisir, mais une pauvre fille au cœur tendre, comme moi, doit toujours se trouver heureuse de recevoir l'amour d'un homme sensible et généreux, quand même il arriverait à cet homme d'avoir un gros nez et quelques cheveux gris par-dessus le marché. Et dites-moi, avez-vous continué vos promenades à la jetée 3 fois par jour ?»« Ah, Seigneur, non ! Comment l'aurais-je pu, n'ayant plus personne pour m'accompagner ? C'est ce qui fait encore mon tourment ici, vous voyez ? Papa prétend que Londres est vide en ce moment. Miséricorde ! Je voudrais seulement pouvoir me lier avec une personne sur 20 de tous les gens élégants et bien mis que je rencontre. J'aurais bien vite attrapé un bal. Croiriez-vous, Mathilda, que je n'ai pas fait un pas de danse, moi qui en suis folle, depuis que je suis en Angleterre ? Je me figurais qu'une fois à Londres, j'aurais des occasions de temps en temps. Mais je vois qu'autant vaudrait vivre au fond des bois. » Nous sommes dans une saison terriblement triste, ma chère, répondit son amie. Mais lorsque vous serez établie dans votre belle maison neuve, vous aurez des bals en quantité, c'est moi qui vous le dis. Valsez-vous, ma chérie ? Non, je n'ai jamais appris, mais maman m'a dit que j'apprendrai. J'adore la valse, reprit Mathilda tout animée. Je ne l'avouerai pas à tout le monde, Patty, mais j'ai pris des leçons depuis... Depuis que je ne suis plus une enfant, et je serai si heureuse de vous montrer. Oh, maman m'a dit que j'allais avoir un professeur homme. Mais je veux bien étudier le pas avec vous d'abord. Quel malheur que nous ne puissions pas nous réunir. Quelle promenade nous ferions ensemble, reprit l'ami. Avez-vous déjà été entendre la musique militaire au Horse Guards, ma chère ? Ah, Dieu, non, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, excepté mon bel homme noir et jaune, dit Patty tristement. Il est certain que ce serait joliment amusant d'être ensemble, reprit Mathilda. Je me demande si Louisa, ajouta-t-elle comme se parlant à elle-même. Mais là, elle s'arrêta, et Patty, anxieuse, les yeux fixés sur ses lèvres, demeura immobile, car elle avait deviné en un instant que son amie cherchait dans sa tête le moyen de lui faire donner dans le lit la place de la sœur aînée. « Ma bien chère Mathilda, dites-moi à quoi vous pensez ?» s'écria l'impatiente jeune fille. « Retournez au salon, Patty, » répondit Mathilda d'une voix un peu troublée. « Il faut que j'amène Louisa ici. J'ai quelque chose à lui dire. » Et, tout en parlant, suivie en silence par Patty, elle longeait le lit pour entrer au salon. « Louisa, voici quelqu'un qui vous demande. Pouvez-vous venir un moment ?» dit la plus jeune sœur à l'aînée. « Grand Dieu, Mathilda, qu'est-ce que c'est ?» s'écria Miss Louisa, quittant brusquement Mistress O'Donaghue, bien que cette dame fût au beau milieu de la description la plus intéressante des splendeurs de la famille Peters. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ? Que vous êtes donc folle ! Mais ce n'est rien du tout, si ce n'est que je veux vous demander s'il ne vous serait pas possible de coucher sur le petit sofa du salon pour une nuit ou deux. » Cette chère enfant a un si vif désir de rester avec nous, et il est si important pour nous, pour moi surtout, il est vrai, de faire en sorte que ces gens-là soient nos obligés. Songez donc que ce cher Foxcroft est de leurs intimes, qu'il sera constamment chez eux. Le sofa est bien petit, dit la douce Louisa d'un air piteux, et vous savez avec quelle facilité j'attrape un rhume quand je ne suis pas chaudement couchée. Fort bien, alors. C'est une affaire terminée et je puis bien me dire que je ne reverrai Foxcroft de ma vie, s'écria Mathilda en proie à l'émotion la plus vive. Allez retrouver ces dames, Louisa, et dites que je ne me sens pas bien. Je n'ai pas la force de supporter les regards désappointés de Patty. Ah, mon Dieu, quelle triste affaire à propos d'un lit. Je voudrais de tout mon cœur que mes pauvres jambes ne fussent pas si longues. Mais j'y songe. Vous, Mathilda, vous êtes pas mal plus petite que moi. Et puisque vous y tenez tant... Ce serait bien volontiers, Louisa, mais je crois que Patty ne voudrait pas coucher avec vous. Elle n'a jamais été avec vous sur le pied d'une intimité aussi grande qu'avec moi. C'est bien, ma chère, n'en parlons plus. Invitez votre jeune amie à rester et nous nous arrangerons comme nous pourrons. Peut-être voudrez-vous bien me céder un matelas et une des couvertures, et je crois que je dormirai très bien sur le tapis du salon. Pour rien au monde, je ne voudrais être un obstacle dans votre vie, et en cette occasion, à cause de Foxcroft. Ah, Louisa, voilà qui est bien de vous. Vous êtes un ange. Et vous aussi, vous n'auriez qu'à choisir parmi tous les capitaines, tous les majors de la terre, si les hommes savaient comprendre leurs intérêts. Mais si jamais je deviens Mistress Foxcroft, vous aurez un frère qui vous récompensera de toutes vos bontés. Et les deux sœurs entrèrent en hâte au salon, où Mistress Onondagu et Patty s'étaient mises à regarder par la fenêtre, tout en devisant à voix basse sur leurs craintes et leurs espérances au sujet du résultat de la consultation, méditation que Patty terminait par ces mots « Si l'on m'invite, que cela plaise ou non à mon père, je resterai. » « Ma bien chère Mistress Onondaga, dit Mathilda, devançant sa sœur dans la pièce et se dirigeant vers la majestueuse dame avec les mains jointes et les yeux suppliants. « Ma bien chère Mistress Onondaga, je viens vous demander la plus grande faveur du monde, dit-elle. Si vous voulez bien me l'accorder, je vous serai à jamais reconnaissante. » « Et qu'est-ce que cela peut bien être, Miss Mathilda ?» répondit Mistress Onondaga d'un ton de condescendance accompagné du plus gracieux sourire. « J'espère que vous ne me trouverez ni trop posée ni trop présomptueuse, reprit la charmante fille célibataire. Mais ma sœur et moi serions ravis si vous vouliez bien permettre à Miss Onondaga de rester quelques jours avec nous. Nous prendrons d'elle le plus grand soin, vous pouvez bien en être sûre. » « Vous êtes bien bonne en vérité, » répondit Mistress Onondaga avec un petit rire qui avait l'air de dire que la proposition lui semblait aussi singulière qu'inattendue. « Qu'en dites-vous, Patty ?»« Oh, maman, rien ne saurait me faire plus de plaisir, » répondit celle-ci en se pendant d'un air câlin au bras de son amie. « Il n'y a personne au monde que j'aime autant que Mathilda. » « Eh bien alors, il nous faut retourner chez nous consulter votre père. » « Comment, chère madame, retourner à Richmond avec Patty avant de nous donner une réponse ? Ah, grand Dieu, que ce sera long !»« Non, non, ma chère Mathilda, ce n'est pas du tout là ce que je veux dire. C'est une habitude que j'ai d'appeler chez nous tout endroit dans lequel je séjourne, ne fût-ce que pour 5 minutes. Mais voici ce que je propose. Venez avec nous, car à vous dire vrai, M. Onondaga nous a accompagnés jusqu'ici en nous recommandant de bien regarder notre chemin afin de pouvoir revenir sans lui. Il avait un rendez-vous avec Lord... Oh mon Dieu, voilà que j'ai oublié le nom, qui l'empêchait de venir nous reprendre. Donc, en venant avec nous à notre petit pied-à-terre, vous nous rendrez grand service, tout en courant la chance de trouver Donny et de pouvoir amener Patty si son père y consent. » Ce plan ayant été accepté à l'unanimité, les trois femmes partirent. Par un heureux hasard, M. Onondaga venait de rentrer quand elles arrivèrent. La chose fut vite conclue, et Patty, entraînant immédiatement son amie dans les trois escaliers sous prétexte d'aller mettre de l'ordre dans sa chambre, lui disait à l'oreille « Je vais vous faire voir ce que peut une chanson si mon bel oiseau noir est dans sa cage. Cherry ripe, 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 cherry, » entonna Patty d'une voix claire et limpide tout en gravissant les marches qui conduisaient au premier. Ainsi qu'elle s'y attendait, la porte s'ouvrit et la tête noire et jaune fit son apparition. Patty tressaillit, se tut et laissa tomber l'ombrelle qu'elle tenait à la main. L'Espagnol s'élança. « Permettez-moi, s'écria-t-il, dans cet universel jargon à l'aide duquel toutes les nations imaginent se faire comprendre. « Charmante donzella, permettez-moi !» Et, ramassant l'ombrelle, il la présentait à la jeune personne avec un salut fascinateur, tout en prenant la liberté grande de dévisager les deux femmes avec ses grands yeux. Merci, monsieur, vous êtes bien honnête, dit Patty en rougissant. Et, ayant repris son ombrelle avec force saluts et sourires, elle franchit le second étage en galopant, suivie de son amie. « Eh bien, ma chère, dit-elle en refermant la porte sur elle, qu'en dites-vous ? Oh, Patty, il est jaune, voilà qui est bien certain. Et vous n'avez pas l'intention, j'imagine, de me dire qu'il est mieux que Foxcroft ?» fut la sentence peu satisfaisante qui répondit à cet anxieux appel. « Allons, vous êtes bien réellement amoureuse, » dit Patty désappointée. « Mais vous pouvez bien, tout au moins, me dire si vous croyez que ce soit véritablement un gentleman. »« Eh, mais, ma chère fille, si j'étais de vous, je ne pousserais pas plus loin la connaissance sans en rien dire à mon père ou à ma mère. »« Oh, quant à cela, je n'ai encore fait nullement connaissance avec lui, je vous ferai observer. » « Et si je m'en vais séjourner chez vous, il n'est pas vraisemblable que la chose arrive. Mais quant à la beauté, il est assez beau pour faire un roi. Ça, je le soutiens, quoi que vous en disiez. Mais venez, j'ai tout ce qu'il me faut et je grille d'aller nous promener toutes les deux seules afin de pouvoir bavarder et regarder autour de nous à notre fantaisie. » On prit donc congé de monsieur et de madame O'Donaghan et, après que la mère et la fille eurent échangé quelques mots sur les objets qui restaient à envoyer à cette dernière, les baisers et les poignées de main ayant été dispensés dans des proportions convenables, les jeunes personnes partirent pour retourner à Brompton. « Vous n'êtes pas fatiguée, Patty ?» demanda Mathilda, aussitôt qu'elles eurent atteint Regent Street. « Pas le moins du monde, » répondit vigoureusement Patty. « Alors, traversons Piccadilly et prenons St. James Street, » dit son ami. Quand je suis dans cette partie de la ville, autant qu'il dépend de moi, je ne manque jamais d'aller jeter un coup d'œil à ce cher St. James Park. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait sur terre un endroit plus ravissant. » Les deux amis, si bien assortis, avaient parcouru environ la moitié de St. James Street quand leurs quatre yeux furent agréablement frappés par l'apparition de deux jeunes militaires en grande tenue qui, sortant d'un café situé au bout de la rue, se dirigeaient vers elles. Une silencieuse pression de bras, donnée et rendue, suffit et au-delà à fixer l'attention de chacune d'elles vers cet intéressant spectacle. Elles continuèrent donc leur chemin, d'un pas peut-être un peu plus digne, un peu plus mesuré que d'habitude, dans tous les cas avec tout le décorum désirable et sans échanger un mot. Les deux jeunes gens étaient grands et beaux, et ni l'une ni l'autre de ces deux demoiselles ne se fit prier pour leur accorder un coup d'œil en passant. Mais quel ne fut pas l'étonnement de Mathilda Perkins, si rigide sur les convenances, quand, sentant tout à coup le bras de sa jeune amie se retirer de dessous le sien, elle la vit s'arrêter au beau milieu de la chaussée, les mains tendues en avant, les yeux rivés sur l'un des deux jeunes gens, comme si ce gorgone mâle l'avait changé en pierre. Toutefois, le jeune garde, qui causait très sérieusement avec son compagnon, n'avait pas remarqué la demoiselle. Et continuant leur promenade, ces messieurs entrèrent dans une boutique à quelques centaines de pas plus loin. Alors Patty, qui semblait pétrifiée, reprit peu à peu ses sens et, étreignant convulsivement le bras de son amie, elle prononça distinctement, tout en poussant un soupir qui ressemblait à une suffocation, le monosyllabe « Jack ».